Il est midi 2 minutes lundi, le 15 avril, c'est le déluge, mesdames, messieurs, le déluge. Il a plu pas mal, ça dépend des régions.
C'est une bruine, Robert, c'est pas de la pluie, c'est une bruine.
Non, mais ça a tombé la nuit dernière.
Oui, oui, c'est ça. Puis avec la neige en quantité là, qu'on a eue cette année, bien évidemment, on s'inquiète un peu de la fonte des neiges, là, parce que plus au nord, là, cette neige-là, dans le bois, dans les forêts, pas encore fondue.
Tu vois, là, de la pluie, il y en a, c'est jeudi, vendredi, samedi, de la pluie.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Bon, ça va fondre. Il y a Kevin qui voulait nous parler avant le bulletin de nouvelles de Cathy. Bonjour, Kevin.
Bonjour.
On vous écoute, Kevin.
Oui, écoute, Kevin. Moi, en vrai, je suis un citoyen de la 14e. Puis comme Mme Reich disait tantôt, ça s'améliore vraiment, vraiment pas. Puis là, moi, c'est comme je disais au monsieur que je parlais avant vous, les autobus sont pas capables de venir. Mais imaginez les pompiers, les ambulances qui viennent qu'arriver quelque chose, là, ça en est dangereux à force que les routes sont là. Mais... moi, le matin, ça me prend 20 minutes passer de chez nous à me rendre jusqu'au coin du stop. D'habitude, prend environ 2 minutes.
Ah oui? Ben à ce point-là, c'est quoi? Non. C'est des cratères?
C'est des trous d'eau, des gros, gros, gros trous d'eau, des cratères, là, c'est creux. Si tu te rentres dans le trou d'eau avec ton auto, rouvre pas ta porte d'auto parce que l'eau va tout rentrer dans ton char. Il y en a plus que le bord de ma porte de char. Et ce qui est le plus choquant à tout ce point-là, c'est que quand il y a du monde qui travaille pour Allen dans le tour du lac à Tortue, il y en a un qui travaille pour Allen sur un des stops du coin du lac à Tortue. Puis si vous regardez sa cour, puis le devant de sa vue, lui, elle est jusqu'au stop, là. C'est top-notch numéro un. Il s'étend de la gravelle, puis il passe le gradeur 3 fois par semaine, mais il va pas plus loin, il vient pas vers nous, il arrête à sa maison.
OK. Avez-vous avisé la ville?
Ah oui, la ville, on l'a avisé plein de fois, mais la ville nous dit que c'est pas de leur affaire, que c'est à Allen, puis ça se relance la balle. Puis comme que je pensais, moi, Mme Boulay doit savoir ça, parce qu'elle a été ministre du transport ou je sais pas quoi.
Oui.
La ville doit être obligée de nous fournir une rue comme quoi que tu sais, les services comme pompiers, ambulances, ces choses-là, ça est capable de venir chez nous, qu'on ne se sente pas
en
sécurité, si tu veux.
En clair, c'est certain que vous payez des taxes, puis dans vos taxes, tous ces services-là sont inclus là-dedans. Donc, vous avez le droit à avoir tous ces services-là, que ce soit le service incendie, le service de la police. Alors, l'ambulance, faut que tout le monde soit capable de se rendre chez vous, parce que si ce n'était pas le cas, vous n'auriez pas à payer des taxes pour ces services-là. Maintenant, le problème-là, ce que je comprends, moi, c'est que la Ville dit que c'est l'entrepreneur qui a mal fait sa job, ça sera à l'entrepreneur de venir corriger. Mais là, ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là, là, que tout le monde se relance la balle, là, puis qu'on laisse les citoyens avec des enfants, des petits bouts de choux, là, faire des 2-3 kilomètres à pied. Et ça n'a carrément pas de bon sens. Moi, j'interpelle. Non, ça n'a aucun bon sens. Puis il y a un problème de sécurité majeur. Si c'est dangereux pour un véhicule, puis que le véhicule est obligé de faire le serpent, là, ou bien de se promener de gauche à droite, imaginez les enfants qui se promènent le long de cette route-là. Alors, il y a un danger imminent. Il y a un problème de sécurité là qui est indéniable. Puis, je comprends pas que où la ville qu'elle mette ses culottes puis qu'elle force l'entrepreneur à faire une solution qui est temporaire, mais à tout le moins qui corrige la situation pour que les véhicules d'urgence puissent circuler.
Merci, Kevin.
Merci beaucoup.
On va tenter de poser des questions. On va parler tantôt à la commission scolaire, puis peut-être un petit coup de fil à la municipalité. Cathy, l'actualité?
Oui, eh bien, une famille endeuillée par le suicide d'une jeune femme de 23 ans lance un cri du cœur sur les réseaux sociaux pour sensibiliser la population aux maladies mentales. Émilie Houle de Baie-du-Fèvre, de près de Nicolet, s'est enlevée la vie le 29 mars dernier. Claude Boucher, ses proches veulent maintenant sensibiliser la population.
2 jours après les funérailles d'Émilie Houle, ses proches diffusent sur Facebook le message d'adieu laissé par la jeune femme dans lequel elle soutient avoir vécu pendant 11 ans avec un profond mal de vivre. Sa mère, Maryse Dionne, ne mâche pas ses mots envers le réseau de la santé qui, selon elle, n'a pas offert l'aide dont sa fille avait besoin.
Elle me disait, maman, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus, je ne peux pas vivre encore avec ce mal-là, ça n'a pas de bon sens. Elle avait tellement mal, là, puis je ne peux pas comprendre qu'il n'y a pas personne en réalité, qui pouvait l'aider.
Les parents croient qu'en lançant ce message, Émilie Houle a voulu sauver d'autres vies. Jusqu'à maintenant, le message a été partagé par près de 70 000 utilisateurs de Facebook.
Merci, Claude Boucher. La Sûreté du Québec tente de faire la lumière sur ce qui serait un meurtre suivi d'un suicide à la tuque en Haute-Mauricie. Les personnes décédées sont une femme de 42 ans et un homme de 44 ans. Les policiers ont été appelés à 2 endroits vers 9 heures ce matin. 2 périmètres de sécurité ont été érigés sur la place sur la rue des Acacias et l'autre sur la rue d'Iberville. Les 2 endroits sont distants d'environ 3 kilomètres. Les enquêteurs de l'escouade des crimes contre la personne de la SQ seront sur place cet après-midi et on aura plus de détails au cours de la fin de journée. La ville de Bécancour a rouvert les rues de Lens et Montesson après l'inondation causée par un embank hier. Ces rues ont été inondées dans la journée et les glaces se sont accumulées à l'embouchure de la rivière Bécancour et plusieurs maisons ont été inondées. Il n'y a cependant pas eu d'évacuation. La sécurité civile garde un œil sur la situation. On peut écouter le conseiller à la sécurité civile, Bernard Letourneau.
Dans le fond, on est en mode surveillance à peu près partout, étant donné que là, la terre est même gelée, l'eau ne peut pas s'infiltrer dans la terre. Alors, il va y avoir du ruissellement qui va être possible quand même sur la rive sud. Il faut attendre peut-être de 24 à 48 heures pour avoir vraiment l'information plus exacte. Puis sur la rive nord, il y a quand même un bon couvert de neige. Ce qui veut dire que ça va diminuer le ruissellement.
Les employés de la Société des alcools du Québec font de nouveaux moyens de pression partout au Québec. Les employés portent le jeans pour dénoncer la lenteur de l'installation d'un nouveau logiciel. On rappelle là que les employés avaient signé la convention collective le 22 février dernier. Et selon nos informations, l'employeur ne serait plus d'accord avec certains points de cette convention. J'attends d'ailleurs un retour d'appel d'Isabelle Gélina, qui est représentante syndicale.
Merci. Merci beaucoup. Tout un moyen de pression pour mettre des jeans. Il y a des jeans aujourd'hui, ça vaut 250$ la paire.
Il y a des trous dedans.
Puis en plus, il y a des trous. Oui. Ils sont délavés. Ils sont délavés.
Ils sont déjà usés, Robert. Ouais.
Merci beaucoup, Cathy. On se retrouve un peu plus tard. Il y a les représentants de l'industrie du taxi qui rejettent l'offre bonifiée qui leur a été présentée lundi par le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel. Nous y reviendrons un peu plus tard.
La météo, une présentation de R.D. Rousseau.
Pour une porte de garage qui a du style et qui fait « wow », consultez R.D. Rousseau. Visitez rdrousseau.com.
Bon, alors, c'est ça. Hein, on va vivre avec. Là, c'est de la pluie aujourd'hui. Pluie parfois forte, nous dit Environnement Canada. Julie est arrivée de Douard. Là, c'était de la bruine.
C'était de la bruine plutôt, oui.
Bon,
c'était de la bruine.
Pour demain, généralement nuageux. 40 % de probabilité d'averse de neige en matinée. Oui, de la neige pour demain. Pour mercredi, on prévoit du soleil avec 9 degrés. Et ce sera de courte durée puisque la pluie sera de retour pour le 18, le 19, le 20 du mois d'avril. On a au centre-ville de Trois-Rivières 3 degrés. Il est midi 9 minutes.
Une vue d'ensemble de l'actualité. Jusqu'à 14 heures, vous écoutez Midi Plus. Midi Plus. Voici Robert Pilote.
Alors, Julie Boulay qui est en studio avec nous autres, vous l'entendez balbutier des petites affaires quand ton micro est ouvert. Là, il ne faut pas que tu me jases ça, voyons donc.
Il était fermé. Tout le monde...
Non, il était
fermé.
C'est Serge Allary qui l'a ouvert, c'est de sa faute. Quand la petite lumière... C'est toujours de la faute à Serge Allary.
Non, je ne dirais pas ça.
Je suis le coupable cette fois-ci.
Non, je dirais, excusez-moi.
On va parler un petit peu de politique. Tu connais ça en politique, toi? Tu en as fait un peu dans
on va parler d'actualité plutôt. J'aime mieux ça.
De politique, parce que là, j'ai des politiciens en studio, puis il y a une campagne électorale, OK? Fait que la politique, tu connais ça un peu.
Un peu.
Ça te fait combien d'années dans ta vie de la politique?
Ben, 17 ans.
OK. Tu n'as jamais été présidente de classe en troisième année?
Au primaire, là.
Au primaire, peut-être?
Petite, là, oui,
fait que tu as fait
primaire,
de la politique
non,
toute ta vie.
Non, non, je ne dirais pas ça, Robert.
Il y a une campagne électorale au fédéral.
Au fédéral qui s'en vient.
Bon, ça pas tout à fait commencé encore, mais les choses se mettent en place. D'ailleurs, en studio, José Bélanger, les candidates dans Berthier-Masquet-Longer, bonjour.
Bonjour, M. Pilote.
Accompagné d'un député aguerri, Pierre Paulus, un ancien militaire.
Oui, militaire, homme d'affaires aussi de la région de Québec.
OK. Et puis, vous êtes vous êtes député de...
Sur le bourreau de Saint-Charles.
OK, parfait.
Oui, puis c'est mon parrain politique.
C'est en plus de ça. Oui. Bon, vous êtes en campagne électorale. On peut-tu le dire maintenant que c'est la campagne électorale?
Vous savez, la campagne, le vote est le 21 octobre, mais il reste qu'on profite de l'occasion que Josée, qui est notre candidate officielle pour Berthier-Masquet-Longer, pour
faire le tour. On va préciser, Robert, pour le Parti conservateur. Là,
oui, hein, effectivement.
Parce que des fois, les gens, ils ne connaissent pas nécessairement tous les noms.
Et c'est Ruth-Hélène Brosseau.
C'est ça.
Qui est là.
Du NPD, qui est la députée depuis 8 ans, depuis la vague orange de 2011.
J'entends des commentateurs de l'actualité dire « elle ne sera pas battable ». Je pense que c'est François Vigeant qui dit ça. Il dit qu'il va s'exiler, je ne sais pas, dans un camp de pêche, dans une cabane.
Il
a dit ça, hein?
Oui, juste après mon lancement.
Oui. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit « si jamais... »
qu'elle allait partir dans une cabane en bois rond, là. Quelque chose comme ça.
Si Ruth-Hélène Brosseau était battue, comme c'était imbattable. Bon, alors on verra bien. Mais au Québec, c'est plus difficile pour les conservateurs que ça l'est dans le reste du Canada.
Ben écoutez, ça dépend où au Québec. Je suis la preuve vivante. Je veux dire, je suis un député. On est 11 députés conservateurs actuellement au Québec. On a des députés qui sont élus depuis 2006, Stephen Blaney, Jacques Gould, par exemple. Donc, il y a 11 comtés qui sont majoritairement plus dans l'Est. Hein. On passe Trois-Rivières, puis après, on arrive à Portneuf-Jean-Cartier, là, ça devient conservateur, la région de Québec, à part deux, le reste, on est tous conservateurs, la rive sud de Québec également. Donc, pour nous, c'est un mystère un peu de voir pourquoi, après ça, à l'ouest de Trois-Rivières, quand on arrive ici, dans le coin de Berthier-Masquinongé ou ailleurs, les gens voient les conservateurs un peu, « Ouais, mais ça, c'est... » C'est conservateur, là. C'est les rednecks de l'Alberta, là. Mais voyons donc. T'sais.
Mais oh. Ça, le, on a vu le sondage, j'ai pas les chiffres sous les yeux, là.
C'est 42 pour les conservateurs et 26...
Au national, 20, c'est
42
ça.
42 conservateurs, libéraux. 29 libéraux. Donc, 13 points d'avance pour les conservateurs. Ça et va c'est un bien. Sondage paru dans le Toronto Star okay. ce matin.
Si ça va bien dans l'Ouest, qu'est-ce qui se passe au Québec? C'est quoi la différence? En...
Ben actuellement, premièrement, ça va pas si mal pour nous. On a des... N'oublions pas qu'on a gagné, à l'époque, Maxime était avec nous, on a gagné en 2015 12 comtés avec un total de 16 % du vote au Québec. Là, actuellement, on est autour de 25 % pour le Québec. Donc, à l'heure où on se parle, il y a une élection demain matin, on peut faire des gains. On peut augmenter le nombre de sièges des conservateurs pour le Québec. Puis, on est en deuxième. Là, on est après les libéraux Justin Trudeau qui sont ouais. en premier au Québec. Par la suite, c'est les conservateurs. Là.
Votre chef, Andrew Scheer, moins connu au Québec, a tout intérêt à se faire voir davantage?
Absolument. Andrew Scheer est souvent au Québec. Il est venu très régulièrement à Montréal, dans la région de Québec.
Il est venu à votre place. Là. Il est venu dans ce studio ici.
Il est venu en entrevue avec vous. Oui, oui, donc, c'est une question d'avoir l'occasion de faire des médias, que les médias parlent de sa présence également. Parce que physiquement, M. Scheer est très souvent au Québec. Très proche de son équipe de députés du Québec. L'équipe autour de lui, son chef de cabinet, c'est un gars de Robertval. Donc, l'image là, des conservateurs, que c'est des gens de l'Ouest puis qui n'ont aucun intérêt envers le Québec, il faut s'enlever ça de la tête.
C'est quoi l'enjeu de la prochaine campagne électorale au Québec?
Puis, l'enjeu, premièrement, ben, c'est s'enlever Justin Trudeau. Pour nous, écoutez, on est le gouvernement en attente.
Non, l'enjeu politique,
non, mais pour, ouais, mais pour l'enlever, il faut avoir de quoi proposer à la population. Là.
Ben écoutez, les propositions conservatrices sont souvent les mêmes. Nous, c'est l'économie qui est notre priorité. Ça a toujours été d'arriver avec des déficits, comme on voit, astronomiques, qui n'amènent à rien comme avantage pour le citoyen. On ne peut pas comprendre ça. On va travailler là-dessus. Et pour l'environnement, souvent, c'est l'enjeu qu'on parle actuellement. Les gens croient que les conservateurs sont contre l'environnement, alors que c'est totalement faux. Bientôt, très bientôt, la plateforme va être déposée. Les libéraux nous attaquent actuellement en disant qu'on n'a aucun plan. Mais écoutez, la campagne, on n'est même pas en campagne officielle. On peut-tu amener nos éléments, nos propositions à notre guise? C'est ce qu'on va faire très bientôt. Vous allez voir qu'on prend ça à cœur. Puis...
On parle de laïcité?
Laïcité, pour nous, écoutez, c'est un enjeu qui concerne le Québec. La décision d'enlever les signes religieux de la fonction publique, ça relève de l'Assemblée nationale. Pour nous, fédéral, Andrew Scheer était clair là-dessus. D'un point de vue fédéral, on le ferait pas, mais d'un point de vue de la décision du Québec, c'est légitime au Québec et on n'interviendra pas là-dessus. Comparativement à Justin Trudeau, que lui, s'il pouvait tout faire pour l'empêcher, il le ferait, en utilisant les moyens légaux à sa disposition.
Bon, dans la région, comment on fait pour battre Ruth Hélène Brosseau?
Comment on fait? Ben d'abord, il ne faut jamais sous-estimer personne. Alors, la première des choses, ben moi, je vais me faire connaître davantage de plus en plus. D'ailleurs, là, je fais du travail de fond, l'association, je fais du porte-à-porte. Tout est bien en branle. Puis aussi, ben c'est ce que plus on est près de la prise de décision, plus, évidemment, on peut faire avancer les dossiers plus rapidement. Alors, c'est ça. Donc, si le Parti conservateur, vous avez une députée...
Mais vous le dites quoi dans Berthier-Masquinongé, là? Vous allez le dire quoi pour dire « c'est José Bélanger que ça vous prend »
Ben, je vais leur dire que je suis la candidate qu'il leur faut.
Ouais.
Non, c'est ça.
Qu'est-ce que ça leur prend?
Ben, ça leur prend quelqu'un qui va être près du gouvernement, donc ouais. qui va être dans le gouvernement puis qui va pouvoir faire avancer être près de la prise de décision, faire avancer les dossiers.
C'est-tu l'agriculture? C'est quoi les enjeux?
Ben oui, il y a l'agriculture, ça c'est clair. J'ai fait une tournée avec Bernard Généreux, on a vu l'UPA, tout ça. J'ai vu les conseils de ville, la Valtrie, le train grande fréquence aussi qui n'est pas mort de notre côté, pas du tout. Je vais donner un exemple ce matin.
On a fait des visites à Louisville, on a rencontré les gens de chez Canadel. L'enjeu des tarifs sur l'acier et l'aluminium a un impact direct sur leur entreprise. Donc, c'est des choses qu'actuellement, les libéraux de Saint-Trudeau n'ont pas été en mesure de négocier avec Donald Trump. Mais pour régler ce genre de dossier-là, il faut être au gouvernement. Donc, c'est sûr et certain que d'avoir une députée dans la région ici qui fait partie de l'équipe qui est au gouvernement, ça donne des chances de pouvoir influencer, de travailler pour les intérêts de leurs citoyens. Ruth Hélène est une super bonne députée, une femme qui a fait son affaire, mais qui est arrivée dans une époque de la vague...
Elle va passer ce ligne-là, mais qu'elle soit en entrevue, que vous avez dit que c'était une super bonne députée.
Bonne députée, oui, mais, là j'arrive au mais, c'est que Ruth Hélène a passé vous en souvenez, en 2011, dans la vague orange de Jack Layton. Ouais. Ruth Ellen était candidate, ne savait même pas qu'elle serait élue. Finalement, elle a été élue, tant mieux. Par la suite, oui, elle a fait son travail du mieux qu'elle peut, mais il reste qu'actuellement, elle fait partie d'un parti, le NPD, qui est en perte de vitesse énorme au Canada, qui ne représente plus là, ce qui est un potentiel
pourquoi,
de devenir un gouvernement.
Pourquoi? L'avez-vous identifié?
Écoutez, c'est une vague.
C'est-tu le turban de M. Singh
qui fait une différence? C'est sûr qu'au Québec, ça fait une différence. Ailleurs, au Canada, c'est différent, mais ici, au Québec, les gens ne se cacheront pas. Là, quand on voit des Sikhs, on n'est pas habitué à ça. En dehors de Montréal, il y en a peut-être un petit peu à Montréal, mais en dehors de ça, les gens ne sont pas habitués aux signes religieux. Puis justement, on a un débat de laïcité, puis on a un chef de parti qui a des signes religieux.
Il a tardé aussi à rentrer au Parlement. Il vient tout juste de rentrer au Parlement. Fait qu'on ne l'a pas vu débattre, mettre ses opinions sur la place publique. On ne sait pas très bien qui il est, là, puis qu'est-ce qu'il veut comme société canadienne. Ou, on ne le sait pas. Là. Je pense qu'il a manqué là de ne pas rentrer.
Comme je mentionnais, il ne faut pas sous-estimer. Il y a le Bloc, il y a d'autres partis aussi. Ouais. Fait que nous... Moi, je vais faire ma place, puis moi, je suis allée au Parti conservateur pour l'autonomie des provinces. Fait que ça, je trouve ça important, puis pour la rigueur au niveau des... tu sais, l'argent du public, c'est sacré, là. Fait que c'est pour ça que je suis au Parti conservateur. Puis écoutez, je fais vraiment du travail de fond. Je veux connaître tous les dossiers. Il y a le lac Saint-Pierre, il y a beaucoup de dossiers. J'ai commencé le porte-à-porte, il y a ma chiche. C'est ça, les chambres de commerce, ça. Fait que... Ce qui est bien dans Berkeley.
Puis ils vous disent quoi, les gens, quand vous les rencontrez, là, le porte-à-porte puis les chambres de commerce, ils vous disent quoi?
Bien, c'est sûr que M. Trudeau, je pense qu'il y en a qui commencent à trouver que son lustre pâlit beaucoup. Là. C'est ce que j'entends, puis que du changement aussi dans notre comté, particulièrement pour justement faire avancer plus.
Les histoires de Sainte-Sylvanie, ça ressort, ça? Ces histoires-là.
L'agriculture, c'est un comté très agricole, ben oui, ça, Robert. Ça, alors, ils ne sont pas contents des ententes négociées avec l'Union européenne et tout ça. Les agriculteurs ont laissé aller 3% là, 3% là, puis à un moment donné,
puis l'agriculture, c'est complexe. Il y a beaucoup de la volaille, le porc, tout ça. Fait qu'il faut vraiment regarder chacun des dossiers individuellement. Là.
Bon, ben bonne campagne.
Ben merci.
Ben là, elle commence pas tout de suite, mais vous reviendrez dans le studio. Le prochain coup, là, ça va être lancé à peu près après l'été. Hein.
La campagne officiellement, normalement, devrait commencer autour du 15 septembre. Le 15 septembre pour un vote le 21 octobre.
Ouais. Vous souhaitez, entre-temps, un beau séjour en Mauricie.
Merci. Oui, on s'en va à Bonbon Richard tout à l'heure.
Richard.
Oui, on va aller là.
Vive le sucre.
Ben oui.
Merci beaucoup. Vous avez entendu José Bélanger, candidate conservatrice dans Berthier-Masquinongé, et M. Pierre Paulus. Il est le député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles, c'est bien ça, à la Chambre des communes pour les conservateurs. Midi 20 minutes. Julie, on va s'arrêter quelques instants. Et puis, au retour, on va entre autres parler de la commission scolaire.
Oui, tout à fait.
Qui
pour,
décide
les
d'interrompre
conditions,
ben
c'est
oui,
ça.
Le transport scolaire.
Au lac à la tortue.
Parce qu'il y a trop de boîtes, ces routes, tous les enfants
ben,
doivent.
Trop de trous, c'est pas la boîte. Il y a trop de trous, la route est
les
trop
boîtes,
brisée.
Là, ben, laisse-moi, je suis coloré, je dis ça de même, moi, la boîte. Non, mais faut-tu lui
Et
mettre
dans
des
les
bottes
trous,
d'eau?
Il y a de la boîte.
Oui, de la boîte. Non, mais il y a même dans la rue, il y a de la boîte tout court. Il va falloir lui mettre des bottes, quasiment des bottes pour aller à la pêche, là, au saumon, en pleine rivière. Ceux qui veulent réagir, ceux qui veulent nous parler, vous composez le 376-1069. Merci d'écouter le 106.9. Midi 24 minutes, ça va tellement vite aujourd'hui. Puis c'est drôle, quand Julie est en studio, c'est comme si même c'est intense pendant les pauses.
On continue à débattre pendant les pauses. On n'est pas toujours d'accord sur les mêmes sujets. Là.
Ben non, s'il fallait... Ce serait-tu plate en maudit?
Ouais, ouais, ouais.
S'il fallait toujours être d'accord, puis que tu faisais la yes woman, puis moi je faisais le yes man.
Ah non, c'est pas ça l'objectif.
C'est le bonheur.
Non,
c'est parce qu'on parlait de José, que je connais depuis longtemps, puis de M. Paulus, que tu vois qui est un homme aguerri. Il en a fait
mais
de la politique.
Elle commence, Robert. Elle commence. Il faut donner une chance, là. Elle commence, puis elle a à apprendre.
Oui.
Puis c'est une personne intelligente. On n'est pas politicien, Robert. On devient politicien parce qu'on a le goût de s'engager, parce qu'on a le goût de défendre les intérêts de nos citoyens, mais il y a un apprentissage à faire. Moi, je pense qu'il y a un apprentissage qui est normal.
Toi, t'es tombé dedans. C'est comme Obélix, t'es tombé dans la potion quand t'étais petite.
Non, c'est pas vrai.
Ça allait super bien. Non, mais je vais la rappeler là, pour dire, la prochaine fois, là, d'abord, viens tout seul dans le studio. Parce que là, M. Paulus, il a donné un coup de bain. Puis, répond aux questions. Non, mais je demande à José. Puis là, c'est de ça dont on parlait pendant la pause. Je demande à José, les gens veulent quoi? C'est quoi ils attendent dans le comté de Berthier-Masquinongé? Puis là, tu as fait répondre. J'ai rencontré le président de la Chambre de commerce. Puis j'ai rencontré telle... Non, non, c'est pas ça. Fait que cela étant dit...
Ben moi, je pense que c'est une bonne candidature, Robert. C'est pas évident, quand on embarque dans ce monde, dans cet univers-là, de venir faire des entrevues à la caméra, à la radio...
T'es-tu le pire? C'est-tu le pire?
Et moi, je pense qu'il y a une période d'apprentissage. Elle est pas encore, la campagne n'est pas encore déclenchée.
Non, non.
Elle apprend. Faut donner une chance aux gens. Et, écoute, c'est-tu le pire? On n'est pas né avec ça. Personne.
T'sais, tu prends... Comment elle s'appelle? Chassé, Marie-Chantal?
Oui.
Bon, tu as vu qu'elle est arrivée, puis les médias, tu sais, c'était pas évident.
Mais elle est arrivée ministre du jour au lendemain, Robert, puis on a vu que les médias, c'était pas évident, puis ça n'a pas fait long.
Oui, mais tu sais, c'est comme... Non, mais tu es en train de me dire, donnons-y une chance.
Bien, candidat...
On y a-tu donné une chance à Marie-Chantal Chassé, tu penses?
Ben...
Elle arrivait, puis elle était nouvellement ministre, puis on lui a pas donné une grosse chance, là.
Bien, moi, je te l'ai dit que peut-être qu'il aurait fallu y donner une chance. Moi, je pense qu'elle aurait peut-être mérité d'avoir une chance. C'était une femme intelligente. C'est drôle, des fois, il y a deux poids, deux mesures. Après, André Lamontagne, lui, s'est enfargé, puis lui, on a passé par-dessus. Peut-être que Mme Chassé aurait fallu la prendre d'un coin, là, puis donner un cours, comment on communique, puis c'est quoi les messages...
Ou lui dire d'attendre avant de communiquer.
De mieux s'informer, de mieux connaître ses dossiers avant d'aller parler sur la place publique. Il y a des lignes, là, il y a une façon de faire les choses, Robert, mais c'est pas vrai qu'on est politicien puis que du jour au lendemain, on devient bon devant les caméras puis devant les micros. Alors, il y a du monde qui sont capables, il y en a d'autres, ça prend un peu plus de temps. Et moi, j'aurais cette tolérance-là à l'égard de quelqu'un qui commence. Parce que sinon, Robert, il n'y aura jamais de personnes qui vont venir en politique parce que c'est pas vrai que demain matin, tout le monde est capable de faire ça sans glisser sur une pelure de banane à un moment ou à un autre. Donc, ça s'apprend.
Tu penses, toi, là, aujourd'hui, que ce qui empêche les gens de venir en politique, c'est cette pression-là qui est liée aux médias?
Bien, ce n'est pas la seule pression, mais assurément que c'est un facteur. Assurément, cette espèce de pression, c'est stressant, on ne veut pas se tromper. La controverse, la minute qu'on dit un mot de travers, qu'on ne le prononce pas bien, qu'on n'a pas utilisé le bon mot, on fait rire de nous autres. Alors, cette pression-là, oui, c'est clair, Robert, qu'elle est présente. Et moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une période d'apprentissage pour ceux. Il y en a qu'on n'apprend pas tous à la même vitesse, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent puis qu'on ne fera pas des bons politiques.
C'est surtout que José, moi je la connais depuis longtemps.
C'est ça. Mais alors,
tu l'as dit, c'est toute une candidate.
Tout à fait.
Mais quand le moment...
À tout ce qu'il faut pour faire une excellente députée. Oui. Alors, je pense qu'il y a un apprentissage.
Est-ce que Ruth-Hélène Brosseau avait tout ce qu'il fallait pour faire une excellente députée?
Bien, Ruth-Hélène, là, moi je vais lui lever mon chapeau sur ceci, Robert, c'est que au départ, personne pensait que ce serait une bonne députée parce que, d'abord, elle venait d'une autre région, elle travaillait dans...
On la connaissait même
elle
pas.
Elle travaillait dans
on
un bar, puis j'ai rien contre les bars, là, pas du tout. Ouais. Mais on avait mis sa photo, comme plusieurs candidats du NPD à cette élection-là. On avait mis, tu te rappelles, dans la violette, on avait mis la photo d'une femme de Montréal.
Oui.
Alors, on avait mis des photos comme ça sur des poteaux, puis ces gens-là sont retrouvés du jour au lendemain, les premiers surpris d'être élus. Alors, ils ont composé avec, et Ruth-Hélène, elle a pris ça au sérieux, elle a pris ses responsabilités, elle s'est installée chez nous, puis elle a travaillé ses dossiers.
Es-tu de l'avis de François Vigeant qu'elle n'est pas battable?
Je suis un peu plus partagée, parce que, vous savez, dans une élection, là, même un bon candidat, il y est pour à peu près 10 % du vote. Alors, est-ce qu'elle sera capable de... Elle, assurément, il va falloir qu'elle soit plus forte que son chef, plus forte que son parti.
Qui est à peu près 15 % de ce temps-là.
Elle est assurément plus forte que son chef et son parti. Est-ce que ça sera suffisant pour lui permettre de rester? Il y a certains comtés qui votent beaucoup pour la personne plutôt que pour le parti. Et Masquinongé a toujours eu une histoire là-dessus, a toujours été un peu comme ça, de voter pour la personne. Alors ça donne une grande chance à Ruth-Hélène.
Pas de transport scolaire autour de Lac à la Tortue, on en a parlé tantôt. Selon la description que Dave en a fait tantôt, il paraît que c'est... Là, je l'ai pas vu, ça fait un petit bout de temps que je suis pas allé dans ce coin-là. C'est le chantier, c'est épouvantable. Le transport scolaire... Le transporteur scolaire a dit, nous autres, on va plus là. Nos chauffeurs se blessent dans le dos.
Non, c'est épouvantable.
On scrape les autobus. Là,
les autobus, puis on a mal... Les chauffeurs mal dans le dos.
T'imagines l'état de la route, tu vois les images. Finalement, ils avisent la commission scolaire. Puis là, la commission scolaire a dit, bon, ben écoute, on va être obligé d'arrêter. Fait que là, la commission scolaire avise les parents qu'il n'y a plus de transport scolaire. c'est terminé. Ils ont avisé les parents, je pense, vendredi dernier. M. Leclerc, le directeur... Denis Lemaire, directeur de la commission scolaire, accepte de nous parler pour qu'on tente de comprendre, puis peut-être qu'on trouve des solutions. C'est possible, ça?
Bien, c'est l'objectif de trouver des solutions, parce que pour le commun des mortels, là, ça n'a pas de bon sens. Comment se fait que la commission scolaire, elle peut dire « mes autobus, ils vont plus, puis mes chauffeurs ont mal dans le dos », mais c'est quoi la solution qu'on propose aux parents? Qu'est-ce qu'on fait de ces petits-enfants-là, des petits bouts de choux?
Ouais, ben, y a des plus vieux, là, il y en a qui vont au séminaire.
Il y en a des tout petits, là, Robert. Oui. Là,
Denis Lemaire, bonjour.
Bon midi.
Bonjour. Hey, qu'est-ce que c'est la situation, au fait?
Oui, donc on va revenir là à la base. Là. Nous, là, depuis le 27 mars, qu'on travaille à essayer de trouver des solutions à la problématique qu'on vit présentement. Je pense que vous êtes tous conscients que c'est pas notre champ de compétence, la voirie. Là. Malgré ça, on a travaillé avec la ville, on regarde comment qu'on peut s'ajuster, etc. Puis on est très conscients que la ville a vraiment des problématiques au niveau des enjeux aussi en ce qui concerne là, le chantier, etc. Mais malgré tout ça, vendredi dernier, en après-midi, les transporteurs nous mentionnaient, là, on ne peut plus y aller, c'est même une question de sécurité. Donc, on apprend ça vendredi après-midi. Malheureusement, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est des compagnies privées de transport, OK? Puis ce qu'il faut savoir, c'est que moi, comme commission scolaire, on n'a pas d'autobus, on n'a pas de chauffeur d'autobus. Donc, à partir du moment que les compagnies d'autobus, puis je vous le dis, là, c'est trois compagnies d'autobus, pas une, là. OK, c'est trois compagnies d'autobus. Ils nous annoncent que présentement, dans des compagnies différentes, il y a deux conducteurs qui sont en arrêt, OK, en CNESST. Il y en a deux autres à venir. Et juste dans les dernières semaines, ils ont pour 13 500 $ de bris. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas juste une question de bris, c'est qu'également, là, ça peut être dangereux pour les jeunes. Quand je vous parle, exemple, je connaissais rien là-dedans, là, les bielles de conduite, OK, qui sont brisées en cours de route, puis qu'il y a des élèves dans l'autobus, ben, on s'entend qu'on est rendu à une étape qui est très dramatique. Donc, c'est pour ça que vendredi, devant les faits, on a dit, on doit nécessairement changer le point d'embarquement. Ça, je tiens à vous le dire, là, tous les jeunes peuvent être transportés, mais le jeune qui a à se faire conduire par son parent le plus loin, c'est 1,6 km. Donc, si on a fait ça vendredi, je vous dirais, pour arrêter la crise, si on veut. Et depuis ce temps-là, on est en recherche de solutions et on pense avoir trouvé des solutions. Mais je vous dirais que c'est majeur comme complexité, parce qu'il faut comprendre, on dessert 12 écoles, c'est 8 autobus, on parle de 16 circuits différents. Donc, je peux vous dire que entre vendredi, fin de journée, et aujourd'hui, ben, on a pédalé.
Monsieur le maire, moi, j'ai une question.
Oui.
Nous autres, la commission scolaire, on n'a pas d'autobus, puis c'est une compagnie privée. Mais c'est qui a payé la compagnie privée? C'est quand même
c'est
la commission.
Nous.
Bon, ben alors, paye quelqu'un pour un service... Et après ça, s'il nous dit « moi, j'y vais plus parce que si, parce que ça », c'est qui a le gros bout du bâton dans une négociation comme celle-là? C'est vous qui le payez, là?
Les deux, regardez bien, Mme Boulay, vous avez travaillé en politique, vous savez qu'on a des ententes, on a des contrats, et malheureusement, dans un des contrats, OK, puis c'est clair, c'est tout écrit partout, que les chemins publics, OK, doivent être en bon état, carrossables à l'année. Longue. Et présentement, on doit faire le constat qu'avec les autobus qu'on a actuellement sur les chantiers, c'est pas carrossable. Regardez, là, c'est pas carrossable. Quand je vous dis qu'à toutes les semaines, ils changent des lames de ressort, il y a des bris majeurs. Donc, faut regarder d'autres solutions plus loin que la boîte. Puis, je vais être franc avec vous. On a beau dire, on résilie le contrat, mais s'il y a trois compagnies d'autobus qui disent, on veut plus aller s'aventurer là, ça nous coûte plus cher que le contrat en cours. Je pense qu'il faut regarder plus loin que la boîte. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Je pense qu'on en a trouvé.
C'est quoi?
Mais c'est sûr que c'est très complexe.
C'est quoi?
Regardez, on a réussi à dénicher des autobus qu'on appelle des autobus de chantier, très spécialisés, avec des suspensions à air. Et dans les 1,6 km que je vous dis où c'est plus circulaire, ben, il va y avoir des autobus qui vont faire la navette à partir de mercredi. C'est sûr que ça amène une complexité parce que c'est des autobus que personne n'avait. On est obligé de faire affaire directement avec, justement, l'entreprise qui construit les autobus. Et on va être capable de se dépanner à partir de mercredi matin.
Mais qui, donc, c'est sûr, qui achète ou loue les autobus? Es-tu le transporteur ou c'est vous?
C'est le transporteur qui achète les autobus. Okay. C'est le transporteur.
Qui va
il y a un
louer.
Contrat. Qui va les, qui, il loue les loue pas. On a un contrat avec les transporteurs et eux ont à desservir des circuits. Mais je tiens à vous dire là-dedans, là, il n'y a pas eu de mauvaise volonté de personne, sauf qu'il fallait savoir qu'à partir du moment que vendredi, nous dit, nous autres, on n'est plus capable de desservir ça. Nos chauffeurs, OK, sont blessés, nos autobus ne peuvent plus y aller. Bien, c'est sûr que notre première idée, nous autres, comme commission scolaire, c'est la sécurité des jeunes. Quand un jeune était rendu à 30 minutes, OK, de retard parce que l'autobus était en bris, puis qu'il est sur le bord du, excusez-moi l'expression, du trou de boîte, là. Donc, c'est clair que nous autres, on a des enjeux majeurs et on ne pouvait pas prendre la responsabilité des 55 élèves qui pouvaient être un peu n'importe où. C'est pour ça qu'on a demandé aux parents de les amener à un point précis et que là, on en prenait charge.
Puis, monsieur le maire, est-ce qu'il y a eu une rencontre, la ville, l'entrepreneur, la commission scolaire, est-ce qu'il y a eu une rencontre au sommet là, pour que chacun prenne à la limite sa part de responsabilité puis qu'on corrige la situation?
Nous, ça fait quelques reprises qu'on travaille avec la ville. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que nous, avec l'entrepreneur en question, OK, de construction, Denis le maire, la commission scolaire de l'énergie, on s'entend qu'on n'a aucun impact sur eux. On a averti, on a travaillé beaucoup avec la ville. Tout le monde a lu dans les journaux que c'est très complexe entre la ville et l'entrepreneur. Mais nous, là-dedans, c'est clair que mon champ de juridiction, c'est pas compliqué. C'est de transporter des élèves sur une voie, puis je le répète, là, qui est en bon état et carrossable. Donc, à partir du moment qu'on avait une complexité, nous autres, on a dit, on va prendre des solutions possibles. On a regardé tous les scénarios. Puis, je vais être honnête avec vous, je me suis même questionné à savoir, bon, mais est-ce que ça devrait être nous autres qui prennent le temps de mettre du gravier dans le chemin, dans le 1,6 km, mais vous comprenez que c'est loin d'être de notre sort. Mais c'est clair, par exemple, qu'on se dit, on va tout prendre les responsabilités qu'on peut prendre, et on comprend, là, je tiens à le dire, là, on comprend très bien les parents qu'ils se sentent en otage, parce que c'est clair qu'ils n'ont pas de solution, puis nous autres aussi, on n'en avait pas. On va essayer une nouvelle solution, en espérant qu'avec la température, ça ne se rempire pas. Là.
Il y a des frais, parce qu'il y a sûrement des frais qui vont venir avec ça, est-ce que c'est de votre intention de refiler la facture à un intervenant dans le dossier?
C'est clair qu'à cette étape-ci, OK, il y a des frais. Nous autres, là, je tiens à vous le dire, on n'est pas à l'étape de dire « Ah, on le fait dessus parce que ça a des coûts. » Non, non, on a un service à rendre, on en est conscient. Il fallait premièrement savoir, moi, je savais pas que ça existait des autobus de chantier avec une suspension à air. On l'a su quand on a commencé à forer vraiment le dossier. Donc, c'est des autobus qui vont être loués spécifiquement pour ça. Donc, il y a des frais majeurs. Je vous l'ai dit, les frais, là. À la base, là, louer un autobus comme ça, c'est 1 000 $ par semaine, à part un chauffeur de plus, à part, etc. Mais pour nous, là, on va le faire. Par la suite, on va regarder, bon, mais qui paie quoi? Ça sera une autre histoire. Mais ce qu'il faut savoir là-dedans, jamais que la commission scolaire va jeter le blâme sur la ville de Shawinigan, parce que c'est un très bon partenaire et eux autres aussi sont en recherche de solutions. Et c'est beaucoup plus complexe qu'on pense.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci, bonne fin de journée.
À bientôt. Alors voilà, il y a des solutions. Il y a Pierre qui a téléphoné. Il est reparti, Pierre. Bon, Pierre, rappelez-nous donc, là, je sais que ça a été long. Il faut s'arrêter maintenant. Il y a des chauffeurs qui nous ont appelés pour dire que le dernier recours, c'est le chauffeur qui l'a. C'est s'il circule sur un chemin qui est non carrossable, c'est sa sécurité qui met en danger, puis celle de ceux qui transportent.
Tu sais, c'est à savoir, Robert, ça va perdurer combien de temps, cette situation-là, là, tu sais, les enfants, puis est-ce que ça dure quelques jours, ça dure quelques semaines, pour combien de temps encore?
Ah non, mais ça, la Calatortue, tu étais député à l'époque, Julie, la Calatortue, là, hein, on va pouvoir écrire un livre, faire un film avec ça, hein?
Il n'y a pas un dossier qui est simple, là, finalement. Là, il n'y a jamais un dossier qui est simple. L'assainissement des eaux, ça a été compliqué aussi.
Quand tu as parlé des enfants sur le bord du trou d'eau Bouette, là, à attendre l'autobus pendant 30 minutes, pauvres enfants. Midi 39. Donc, vous l'avez appris ici. Là, je pense qu'ils ne l'ont pas dit ailleurs. Là, donc, ils ont trouvé une solution.
C'est ça.
Les autobus avec des suspensions.
Avec des pneus comme...
Des suspensions air comprimées.
Des suspensions pneumatiques à air comprimé, c'est ça.
Ouais,
donc, ils vont atténuer les chocs, finalement, pour le chauffeur et ils vont permettre aux autobus de se rendre jusque vos enfants.
Avec la pluie qu'on a, là, éventuellement des chaloupes, je ne sais pas, des canots, hein, peut-être. Midi 39 minutes, une courte pause au retour. On n'a même pas abordé les sujets qu'on voulait aborder encore, puis il est déjà moins 20.
Ben oui, il reste encore un peu
moyen, de temps. Moyen placoteux. Notre affaire. On voulait parler de quoi, donc, après la pause? J'ai mis ici l'hypothèse de règlement, ABI.
Oui, ben en fait, ça va être déposé, ce qu'on lit dans les journaux, ça sera déposé le 17 avril, donc mercredi.
Oui. Alors, on va en parler après la pause. Oui. Les mini-centrales,
oui.
Bon, il y a Hydro-Québec qui autorise, même s'il n'y a pas besoin de l'électricité, ben, la construction de mini-centrales.
Voilà, faut faire tu ça en apporter, première page du journal de Montréal.
Tu vas apporter les nuances.
Oui, tout à fait.
Bon, bougez tout pas de là. Vous okay. voulez nous appeler, camionneur Pierre, là, pour apporter des prévisions.
Vous êtes les bienvenus, oui, tout à fait. 376-1069. Alors, gênez-vous pas, appelez-nous. Tous commentaires sont les bienvenus.
Vous pouvez nous écrire également. Oui. Es-tu Facebook, toi?
Pas beaucoup, mais il faudrait que je m'y mette, Robert.
Oui, là, tu n'as même pas ton téléphone. Tu devrais avoir au moins un téléphone devant toi. Ah, il est là, OK.
Oui.
Parfait, je vais te plugger là-dessus, là, sur Facebook.
C'est ça.
As-tu un profil Facebook?
Non!
Tu n'as pas de profil encore?
Non, parce que quand j'étais en politique, Robert, tu sais, les messages qui sont moins gentils, moi, je pense que je n'avais pas besoin de ça dans ma journée. Alors, je ne m'attardais pas à ça. Là,
je me demande si je ne reviendrai pas sur la liste, là, où je veux peut-être que ça pourrait. Elle m'a réécrit, là. La liste, oui. Tu sais, je t'ai défendu jeudi passé.
Oui.
Elle a fait deux, trois messages.
Mais elle devrait t'écrire quand je suis là pour que je puisse y répondre. Ça serait...
Je ne sais pas si elle nous écoute.
C'est ça.
Tiens, Alice, parce que là, c'est pas fin, là, ce qu'elle a écrit. Puis elle s'attaque un peu à moi aussi, là.
Bon.
Tu sais que je suis un sans génie. C'est Alice Poitras. Bon, Mme Poitras.
Parce que Mme Alice, là, pourrait écrire ou nous appeler quand je suis là pour lui répondre. Bon. Ça serait le minimum. C'est facile d'écrire des choses, Robert, sur Facebook, puis sur Internet, puis sur tout ça, quand on n'a pas à se présenter, quand on n'a pas à avoir de réponse, de feedback de la personne qu'on accuse. C'est toujours un peu facile de faire ça.
OK.
C'est
ben,
gratuit
regarde, je vais,
et facile.
Regarde, on va le régler. Tout de suite après la pause, on fait la pause. Puis tout de suite après, Alice, là, je vais retrouver le message qu'elle m'a envoyé. T'as pas vraiment faim. J'ai eu de la peine. Tu sais, je suis rentré au travail ce matin heureux. Tu sais, le cœur rempli de toutes sortes de belles affaires. Puis Alice, elle a voulu m'atteindre et me faire de la grosse pépine. On va en parler après la pause. Midi 46 minutes, j'ai retrouvé le message dont je te parlais avant la pause, Julie. Et je prends la décision avec tes précieux conseils de ne pas le lire. Il ne donnera pas plus d'importance qu'il y en a. Je ne sais pas si c'est un gars ou une fille. Il dit qu'il s'appelle Alice, là, sauf que c'est quelqu'un, au lieu de mettre sa photo à lui, là, son vrai visage, là, c'était une photo de chat, là, une photo de chat. Donc, si vous n'avez pas le courage de venir en ondes, il y a le 376-1069 pour venir nous dire ce que vous pensez.
Tu sais, des messages haineux comme ça, Robert, c'est facile quand on n'a pas de nom, on n'a pas de photo, puis on l'écrit parce qu'on n'est pas... En pleine face, là, les gens n'auraient jamais ce genre de commentaires-là parce que c'est irrespectueux.
Puis ça partait, c'est niaiseux. La semaine dernière, la conversation qu'on avait, c'était à propos de William Steinberg. Puis c'était le fun, là. On a eu un beau moment de radio jeudi passé. Puis toi, tu avais cité quelque chose que tu avais vu dans le journal de Montréal. Puis on est parti de là, puis on a tricoté. Là, la madame a dit, voyons donc, c'est pas, tu sais, William Steinberg, c'est pas son fils, son neveu.
Mais c'était dans la famille, là. C'était dans la famille, tout le monde en a convenu après, là. On en a parlé, puis après ça, c'est sorti que c'était peut-être pas le fils, mais le neveu. Moi, je l'ai pris dans le journal de Montréal, là, je l'avais pas inventé.
Oui, puis le fond de la question, c'est que Steinberg est allé dire des affaires énormes.
C'est ça.
Dénoncées à la Coast to Coast au Canada, OK? C'était ça, le fond du dossier.
C'était clairement
ça. Fait que là, le monsieur ou la madame, on le sait pas, on n'a pas sa photo, m'a renvoyé après ça, parce que là, j'ai envoyé l'imprime écran du journal Montréal en disant, regardez, on avait pris ça là, l'histoire de Steinberg. Et puis là, m'a envoyé un espèce de courriel, un texto haineux, message haineux, que je lirai pas en nom. On passe à un autre appel, OK?
Je pense qu'il ne faut pas donner plus d'attention à ces gens-là parce que franchement, là, c'est un manque de maturité, là. Puis un manque de respect, là, évident.
Point à la ligne. C'est dans le Nouvelliste, on nous annonçait en fin de semaine qu'ABI et le syndicat des métallos vont recevoir l'hypothèse de règlement de Jean Boulay, ministre du Travail, le 17 avril prochain.
Oui. Alors ça, c'est mercredi, ça, Robert. Alors ça sera assurément...
La Terre va-tu arrêter de tourner à ce moment-là? Est-ce que ça va changer quelque chose dans le dossier?
Bien, en fait, on va tous se croiser les doigts, peut-être encore une fois, en espérant que celle-ci sera la bonne. Mais de toute évidence, Robert, si ça ne fonctionne pas, là, il n'y a plus beaucoup de pistes de solutions. D'après moi, c'est la dernière carte que le ministre peut jouer. Est-ce que, en sachant ce que son premier ministre a dit, c'est clair que le syndicat regarde ça avec des grosses lunettes en voulant dire si c'est dans le même sens ou si c'est le reflet de ce que le premier ministre pense, qui est le patron du ministre. Alors, le syndicat n'est pas très positif à l'égard de cette hypothèse de règlement, mais on verra. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que les partis la regardent et que les syndicats la proposent, la montrent à leurs syndiqués. Et on souhaite tous que ça puisse se résoudre. Là, Robert, on est rendu, il est minuit moins une, moins 30 secondes, il est minuit, on est rendu en fin de parcours. Alors, on souhaite tous que ça puisse nous amener à un règlement de...
On verra.
On verra.
On verra parce que t'es là ça. Jeudi. Fait oui. qu'on va pouvoir s'en reparler oui. jeudi. Je fais entendre un extrait de l'entrevue que j'ai réalisée au début de l'émission. Avec les parents de cette jeune femme, oui. 23 ans, t'imagines, 23 ans.
Ah, c'est épouvantable.
Émilie Hull de Baie-du-Fèvre qui s'est enlevée la vie, cri du cœur. Elle a écrit tout juste avant de s'enlever la vie un long texte qu'elle a publié sur les médias sociaux, probablement qu'elle y avait pensé depuis très, très longtemps. Et j'ai fait l'entrevue avec les parents, la mère entre autres, qui, eux, très froidement, je dirais, puis ça m'a surpris un peu, viennent dénoncer la façon dont cette jeune femme a été traitée dans le réseau de la santé, entre autres. Je t'en fais entendre un oui. extrait, puis je vais entendre ton commentaire après.
En principe, ça prendrait plus d'encadrement. Je peux pas comprendre que des personnes qui ont déjà tenté de s'enlever la vie, qui arrivent comme ça, qui ont besoin d'aide, puis que tu les ressors, puis que c'est le bobo il est parti. Là. C'est vraiment... Ça prend quelqu'un qui apprenne à connaître c'est quoi vraiment son mal intérieur. Mais tu peux pas en 10 minutes savoir que la personne, c'est ça que ça y prend comme médication, personne besoin chez vous, t'as plus de mal, là. En tout cas, pour moi, c'est un manque de ressources immense, là. Tu sais, je comprends que c'est probablement pas un cas de psychiatrie à l'hôpital, ça, je suis tout à fait d'accord. Sauf que ça prendrait des centres avec des intervenants, des psychiatres qui prennent le temps de s'asseoir avec les personnes.
Maryse Dionne, c'est la maman en question. Elle dit, elle a tout fait, là. Elle a essayé de consulter tout le monde.
Mais c'était une infirmière, hein, Robert. C'est important de le dire pour oui, nos auditeurs, là, parce que c'était une infirmière.
Elle
là.
Dit, je vais rentrer.
Pas quelqu'un qui connaissait pas ça, là.
Elle s'est dit, je vais rentrer en ambulance.
Je vais être certaine d'être mieux servie.
Ils vont me voir, puis comme ça, ben, je vais probablement être
espérant
pris en charge.
Espérant qu'ils la gardent, qu'ils la prennent en charge, qu'ils la laissent pas repartir.
Elle est repartie.
C'est ça, c'est ça.
Puis est arrivé ce qui est arrivé.
C'est ça.
Est-ce qu'on manque à ce point de ressources en santé mentale dans le réseau
ben,
de la santé?
Je te dirais...
Ça nous coûte... le trois quarts du budget du Québec passe en santé quasiment.
Mais la santé mentale, c'est l'enfant pauvre du ministère pourtant, de la Santé.
Et
c'est
pourtant,
l'enfant
Julie,
pauvre, Robert.
C'est le problème le plus important en
mais,
santé.
Mais c'est souvent un sujet de tabou. Alors, les gens qui ont des problèmes de santé mentale n'en parlent pas. Ils ont peur d'être jugés, d'être marginalisés, d'être... On les comprend pas. Alors, c'est du monde qui se plaigne pour rien. Puis, alors, c'est vraiment, vraiment... Il y a un manque de ressources financières. Il y a un manque de main-d'œuvre, là, de personnes spécialisées là-dedans. Et de toute évidence, on ne fait pas suffisamment de prévention et de détection des problèmes de santé mentale. Et c'est criant, Robert, parce que le mal de vivre, moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont en dedans d'eux et qui crient. Bon. Mais ce cri-là, un cri de désespoir...
Prescription? Tiens, on va vous donner
du Zoloft. Oui, mais t'as beau donner la prescription, Robert, là. La prescription, premièrement, elle le dit, la mère, dans ton entrevue, quand on change de médicament, ça prend un certain temps. Un antidépresseur n'est pas efficace du jour au lendemain. Ça prend 2 semaines, 3 semaines avant que, d'abord, qu'on trouve la bonne dose et avant que le médicament réussisse à régulariser ou à amener un équilibre de vie dans la personne au niveau de ses émotions, ça prend un certain temps. Alors, si cette personne-là, on lui donne des pilules puis on la retourne chez eux puis c'est fini, ben, peut-être qu'après 2-3 jours, elle va dire « ça fait rien ces médicaments-là, elle va sacrer ça à la poubelle, elle passera pas mieux ». Alors, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement, qu'elle soit vue, qu'on lui permette d'extérioriser son mal de vivre, qu'on lui parle, qu'on essaie de la comprendre. Donc, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a un univers de gens spécialisés là-dedans, mais on dirait qu'ils ne sont pas facilement accessibles. Et avant qu'on réfère des gens, des jeunes, puis des personnes qui ne sont pas bien, avant qu'on les réfère, il y a souvent... trop de temps, Robert. Et ça permet aux gens... En fait, ça fait en sorte que les situations se dégradent, les personnes vont de moins en moins bien et quand il n'y a pas d'issue, quand il n'y a pas de... Quand on ne voit pas d'horizon, quand on n'est pas capable de trouver un équilibre, ben c'est parfois des gestes malheureux comme celui-là que la jeune fille a posé, mais c'est épouvantable, Robert. Et moi, j'imagine les parents, l'entourage qui se dit... tu sais, souvent on dit, ben je ne l'ai pas vu venir, il m'en a pas parlé, mais là, elle en
c'était
avait parlé.
C'était d'une évidence.
C'est ça. Alors, c'est encore pire, Robert. Comment se fait-il qu'avec son cri d'alarme, comment se fait-il qu'on n'a pas été en mesure de prévenir ce geste-là, malheureux, et comment se fait-il qu'on n'a pas été en mesure d'accompagner, de soutenir cette jeune femme-là de façon plus adéquate? Il y a une incompréhension là, qui est tout à fait normale, et je pense que le geste des parents, c'est de sonner l'alarme, puis de mettre sur la place publique une situation qui est vraiment très triste, et on veut éviter que ça se reproduise dans d'autres circonstances.
Marc écrit... Oui, ça prend des centres fermés pour thérapie maladie de vivre. J'appuie la dame et j'ai vécu exactement ça suite à une séparation. J'ai eu aucun suivi, nous dit Marc.
Il y a plein de monde, Robert. Il y a plein de monde. La société d'aujourd'hui, là, Robert, puis tu es d'accord avec moi, là, je suis certaine que les gens, s'ils veulent nous appeler, elle est exigeante. Hein? Il faut performer, il faut être efficace, il faut travailler, il faut gagner notre vie. Et là, on veut réussir au niveau professionnel, on veut réussir dans notre vie amoureuse. Et des minutes qu'il y a un pion de ça qui tombe, on est déstabilisé et là, les gens perdent leur équilibre mental. Et ça, c'est vraiment, vraiment, moi, il y a beaucoup de gens, je suis convaincue, beaucoup de gens qui sont emprisonnés dans cet univers-là.
Est-ce qu'on prescrit trop de pilules au lieu de travailler à la source le problème?
Ça prend les deux, Robert. Moi, oui. Je pense que les pilules, avant, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en avait où on les n'était pas les bonnes. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux utilisé, beaucoup plus efficace, mais ça ne suffit pas. Ça prend un encadrement, ça prend un psychologue qui nous suit, qui nous parle, qui nous permet d'extérioriser le mal profond qu'on a à l'intérieur de soi. Ça prend aussi des activités. Si on est capable d'avoir, un club social, mais il faut avoir une vie sociale autour de nous.
C'est ça.
Il n'y a pas un remède. C'est un changement dans tout ce qui nous entoure qui nous permet souvent de s'en sortir.
Un mot en terminant, avant de te laisser partir. Malgré les surplus d'électricité d'Hydro-Québec, 460 millions de dollars engloutis dans trois nouvelles petites centrales, dont une que tu connais bien,
oui,
dans le nord de la Tuque.
À Manuantipi. La centrale, ouais. Elle s'appelait comme ça, là, ils ont changé de nom, là, c'est plus tout à fait ce nom-là. Ça a changé, mais... Bon,
c'est la une du Journal Montréal.
Oui, c'est ça. En fait, là où ils ont raison, Robert, c'est qu'on est en surplus d'électricité au Québec. Alors, quand on est en surplus, on se demande pourquoi on fait ce genre de projet-là. OK? Que ce soit les éoliennes, que ce soit les mini-centrales, ça coûte plus cher comme électricité que nos grands barrages qu'on fait à la Romaine, puis Manic 1, Manic 2, Manic 3. Alors, l'électricité coûte plus cher. Il y a des raisons pour lesquelles un gouvernement choisit d'aller de l'avant dans ce genre de projet-là, malgré qu'il y a des coûts d'électricité plus importants. Et dans le cas des mini-centrales, il y en avait 6 projets qui ont été autorisés. 4 des 6 projets sont en lien avec les communautés autochtones. Et l'objectif, c'était de permettre à des communautés de se développer. Parce qu'en faisant les mini-centrales, l'électricité qui est produite va être vendue à Hydro-Québec. Donc, il y aurait des revenus pour les communautés, dans ce cas-ci, pour la Tuque et pour, pour Wemontachi. Donc, des revenus à chaque année sur une période de 20 ans qui vont donner à la Tuque et à Wemontachi des leviers financiers, Robert, pour initier des projets. Donc, au lieu de toujours aller quêter de l'argent à Québec, parce qu'on a un projet qui est porteur, qui est structurant, qui crée des jobs, qui crée de la richesse sur le territoire, bien là, la communauté devient autonome et elle dispose de sous, de leviers pour financer des projets qui vont probablement redéfinir le portrait de la Haute-Mauricie. Alors, ces projets-là, un peu partout dans les régions éloignées, ont été autorisés pour faire du développement économique régional. Quand on dit que l'occupation du territoire, ça coûte de l'argent, Robert, ça, c'en est un exemple. Alors, moi, j'étais parfaitement d'accord avec ça. Je ne crois pas qu'il faut qu'il y en ait partout. Je ne crois pas qu'il faut qu'on ouvre ce genre d'initiative-là à toutes les années. Mais il y avait eu un appel de projets. Il y avait eu 6 projets qui avaient été retenus. Et je pense que l'objectif qui était visé par le gouvernement était tout à fait louable et de permettre aux communautés de devenir autonomes. Je pense que quand on vit en région éloignée, c'est ce qu'on souhaite et on ne veut pas être toujours en train de demander, de quémander de l'argent à Québec.
Julie, merci. Suis-tu toujours la campagne municipale à Trois-Rivières?
Oui, je suis ça, puis je devrais être là avec toi là, lors du débat la semaine prochaine, là, Robert.
Parfait, parfait. Ça lève un peu, ça lève?
Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de passion, mais là, avec les débats, ça va s'animer. Ça va s'animer, puis les gens vont probablement se bousculer un peu plus, là. Ils vont se bousculer, il va y avoir un peu plus de choc des idées, mais ça, je pense que c'est sain. Ça nous permet de voir les personnalités de tout et chacun. Qu'est-ce qu'ils ont à nous proposer? Quelle est leur vision d'avenir pour Trois-Rivières? Et ça, on a besoin de savoir ça pour faire le meilleur choix là, lors de la journée de l'élection.
Le débat du 106.9 est organisé le 24 du mois d'avril. Ça va se passer au Memphis, anciennement le Maquisard. Et puis, j'aurai le bonheur d'animer ça. Puis, on va faire un beau
les
show.
Les quatre candidats seront là. Hein, les quatre, c'est oui. important parce que
je t'ai écouté,
partout ailleurs, oui. il n'y en avait que trois. Oui. Moi, c'est ce que je t'avais dit, Robert.
Ben oui,
moi, je pense qu'il faut que...
Démocratie.
La démocratie.
Démocratie.
C'est là pour tout le monde.
Quand tu as le courage de ramasser tes votes, là, puis de t'organiser une petite campagne, puis de te présenter, je pense que... C'est le minimum d'être invité dans les débats.
Il faut les encadrer comme il faut pour éviter que ça dérape, mais ça, c'est ton mandat à toi.
Et puis, tu peux être sûr que ça ne dérapera pas. Puis, ça, c'est bien mieux de ne pas déraper.
Non, mais c'est parce qu'il faut que ça se fasse dans le respect. Puis, il ne faut pas que tout et chacun empiète sur l'autre quand on parle, parce que là, ça devient cacophonique. On n'entend plus rien, on ne comprend plus rien. Puis...
Mais il faut que ça donne un bon show. Pareil.
C'est ça. Oui.
Tu sais, là, ils ont sorti des publicités, là, tu vois, tu as vu une campagne de publicité humoristique pour faire sortir le vote, pour inviter les gens à aller voter.
OK, non, je ne l'ai pas vu.
C'est ça. Tu sais, c'est la fille qui a une coiffure qui est bizarre, là. Laisserais-tu ton coiffeur décider de la sorte de tête que tu vas avoir, là? Et puis, c'est pour faire sortir les jeunes, entre autres.
Parce que dans ce genre d'élection-là, il n'y a pas des hauts pourcentages de la population ne se déplace pas beaucoup. Alors, c'est important. On est chanceux au Québec, dans notre démocratie, d'avoir ce pouvoir-là, de choisir nos élus. Alors, il faut vraiment que les gens fassent un effort puis aillent exprimer leur vote là, journée.
As-tu regardé le vote, le golf?
J'ai regardé un peu. Mais franchement, là, écoute, c'est une star. Hein. Les gens ne l'ont pas oublié, les gens l'aiment toujours. Oui. Les gens, c'est une star. Hein. Hier, quand il a gagné, là, c'était... Moi, c'était de voir son petit bonhomme, là, Robert, là, de le voir prendre son fils dans ses bras. Là.
Sa mère. Y a-t-il une nouvelle blonde aussi?
Sa blonde avec un chapeau noir. Il y avait son fils, sa fille et sa maman. Alors, c'était vraiment un moment émouvant, un moment fort dans l'histoire du golf du Québec. Là. Mais c'est
assurément un grand champion
qui est revenu en force malgré qu'il a été dans des périodes très creuses de sa vie pendant plusieurs années. Alors, beaucoup de résilience de sa part, beaucoup de détermination, de courage. Moi, je pense qu'il faut saluer haut et fort son retour.
Mais avais-tu vu les mugshots quand il était arrêté par la police en Floride? Avais-tu vu film, la vidéo là-dessus? Non. Tu ne l'as peut-être pas vu. Hein? Écoute, c'était quelque chose...
Moi, je n'étais pas accro là, à tout ça, là, comme toi. Là.
Ben, je ne suis pas accro, c'est mon métier.
Oui, c'est notre
métier de s'informer puis de voir aller les affaires.
Il faudrait que Serge me sorte ça et qu'il me fasse des pitchs avant.
Je vais peut-être te le sortir pendant la pause, parce que là, il faut que tu t'en ailles. Mais quand on a vu ça, puis Serge le premier, puis moi aussi, on a dit c'est fini.
Oui, ils l'ont fait débarquer de sa voiture, puis ils l'ont fait marcher sur la ligne blanche.
Oui, puis là, c'était pas beau à voir. Il titubait. Puis après ça, il était allé au poste de police avec la petite pancarte en dessous. Là.
Écoute, c'est une leçon de vie. Puis beaucoup d'humilité de revenir de si loin. Puis avoir frappé les bas-fonds, c'est quelque chose.
Et de le voir faire son dernier roulé hier, un pied et demi à peu près. Et puis de voir sa réaction. Il y a eu comme un petit délai de 2-3 secondes. Puis après ça, je pense qu'il a vraiment vu, il a dû voir un film en accéléré les dernières années.
C'était vraiment un moment fort, Robert.
Merci, Julie. À plus tard. Joues-tu au golf, toi?
Non, je ne suis pas assez patiente pour ça, mon Robert. Je me choque après la balle. C'est un sport qui demande beaucoup de pratique parce que c'est très technique.
Oui.
Puis moi, je n'avais pas le temps d'aller prendre du temps pour ça. Fait que je ne suis jamais devenue bonne ou même pas minimalement.
Que Jean Chrétien lui a trouvé le temps pour devenir bon au golf.
Je ne sais pas. Je n'avais pas de talent du tout. Là, c'est peut-être ça aussi.
Bill Clinton.
Mais finalement, ma balle avance de 3 pieds ou elle va dans le champ ou elle va dans la trappe de sable. Oui. et c'est juste un paquet de frustration pour moi. Fait que je préfère, je conduis le car ou je marche à pied, puis j'admire la beauté de la nature.
Voilà.
C'est plus relaxant comme ça pour moi.
Merci beaucoup, Julie.
Ça fait plaisir.
On se retrouve jeudi. Il est 13h03. Merci d'écouter le 106.9.